Dimanche dernier, nous avons considéré un des nombreux paradoxes de la foi chrétienne. Et comme ça vient d'être rappelé dans une prière, nous avons vu que c'est quand nous sommes faibles, quand nous nous reconnaissons faibles devant Dieu, que nous devenons forts, forts de la force de Dieu qui s'accomplit dans notre faiblesse. Ce paradoxe m'a amené à en considérer un autre que j'aimerais partager avec vous ce matin et auquel j'aimerais que nous réfléchissions ensemble. C'est le paradoxe de la grandeur de Dieu, ou plutôt de la grandeur aux yeux de Dieu, qui se trouve dans l'abaissement, dans le service du prochain et des frères en Christ en particulier. Pour aborder cet autre paradoxe, j'aimerais que nous méditions un texte de l'Évangile de Matthieu où nous allons trouver une demande faite à Jésus qui est très particulière. C'est la demande d'une mère qui en veut pour ses fils qui se trouvent être deux des disciples de Jésus, en l'occurrence Jacques et Jean. Je vous invite à lire Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 28. Matthieu, chapitre 20, 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? » ? Ordonne, lui dit-elle. Que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit : « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jacques, Jean et leur mère s'approchent de Jésus. Sans doute sont-ils un peu à l'écart des autres disciples. Ils s'approchent de Jésus avec une requête. Et quelle requête ? Ordonne, dit la mère de Jacques et Jean, que mes deux fils que voici soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Plusieurs commentateurs pensent que la mère de Jacques et Jean était la sœur de Marie, la mère de Jésus, ce qui pourrait expliquer l'audace de la demande. Impossible d'en être sûr. Quoi qu'il en soit, que la mère de Jacques et Jean soit la mère de Marie, soit la sœur de Marie ou pas, nous notons que la demande est particulièrement osée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette mère a de l'ambition pour ses enfants. Mais au fait, que demande-t-elle vraiment à Jésus ? Elle demande pour ses fils ni plus ni moins que les deux meilleures places de son royaume. Les places d'honneur, à droite et à gauche de Jésus. Une des questions que l'on peut se poser ici est celle de la légitimité de la question. Y avait-il de la place pour une telle requête? Ou bien cette demande est-elle complètement déplacée? Quel regard porter sur cette demande de la mère, de Jacques et de Jean? Notons qu'ici, au moins deux regards sont possibles. Certains légitiment la demande en la comprenant comme la traduction du désir louable d'être le plus proche possible de Jésus. En la comprenant aussi comme le prolongement de l'intimité que Jacques, Jean et Pierre avaient avec Jésus. Ce serait d'une certaine manière une promotion logique. Et nous nous souvenons en particulier que Jean était le disciple pour lequel le Seigneur avait le plus d'affection. D'autres, dont je fais partie, voient dans la demande de ses disciples et de leur mère plutôt la traduction d'une ambition de grandeur. J'aimerais ajouter deux remarques à ces deux regards possibles. La première est un crédit à la foi de ses disciples et de leur mère. Pourquoi ? Parce qu'à bien y réfléchir, il me semble que leur demande, légitime ou pas, traduit aussi une confiance totale dans l'établissement du royaume de Dieu. Ils n'ont bien évidemment pas encore tout compris de ce royaume de Dieu. Mais ils croient fermement que Jésus va l'établir. C'est donc une belle confiance en Jésus qui transparaît dans cette demande. Je tire la deuxième remarque du contexte, et elle vient peut-être légèrement nuancer l'ambition de grandeur des disciples. En effet, voici ce que nous trouvons dans les versets qui précèdent. À la fin du chapitre 19, les versets 27 à 30. Alors Pierre prit la parole et lui dit « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même, qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères et sœurs, père, mère, femme, enfant, ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » En réponse à la question de Pierre, suscitée par l'épisode du jeune homme riche qui précède, Jésus fait cette promesse aux 12, promesse que nous trouvons au verset 28. Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » Il est question ici de royaume et de trône, du trône de Jésus, mais aussi du trône des disciples. Et il est facile d'imaginer que Jacques, Jean et leur mère aient médité sur cette promesse de Jésus. Les trônes étant assurés, il ne restait plus qu'à déterminer le rang de chacun. Alors pourquoi ne pas demander que ses fils soient assis aux places d'honneur, à droite et à gauche de Jésus ? Après tout, qui ne demande rien n'a rien. Cet épisode et ces paroles de Jésus constituent à n'en pas douter l'arrière-plan de la demande audacieuse de la mère de Jacques et de Jean. Si cette promesse de Jésus nuance un peu les choses, il me semble néanmoins que le désir de grandeur est bel et bien présent chez Jacques, chez Jean et chez leur mère. Trois éléments du texte vont dans ce sens. Il y a premièrement la première partie de la réponse de Jésus au verset 22. « Vous ne savez ce que vous me demandez. » Si la demande était légitime, est-ce que Jésus aurait dit cela ? Il y a ensuite la réaction au verset 24 des 10 autres disciples qui semblent corroborer la version de l'ambition de grandeur. Ils ont entendu la demande qui vient d'être faite et ils s'indignent, dit le texte. C'est à mon sens une indignation qui traduit leur jalousie. En réalité, les 10 autres disciples ont autant d'ambition que Jacques et Jean. En effet, à plusieurs reprises, dans les évangiles, on voit les disciples discuter, se disputer même, pour savoir qui est le plus grand. Prenons un exemple qui est chronologiquement en amont de la demande formulée dans notre passage. Il s'agit de Marc au chapitre 9, versets 33 à 35. « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » À la lumière de ce texte, il semblerait bien que la demande des fils de Zébédée soit en réalité la demande de tous les disciples. Une demande qui traduit l'ambition de grandeur de tous les disciples. Et on pourrait certainement prolonger en disant l'ambition de grandeur attachée à la nature pécheresse. Enfin, le troisième élément. Enfin, le troisième élément du texte en faveur de l'ambition de grandeur des disciples, c'est l'allusion à la domination des grands de ce monde, au verset 25. Une allusion donc faite par Jésus et qui n'a de sens que si la requête des disciples, enfin qui n'aurait pas de sens, pardon, si la requête des disciples était légitime et pure. D'ailleurs, Jésus dit clairement au verset suivant, « Il n'en sera pas de même parmi vous ». Oui, les grands de ce monde dominent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Nous y reviendrons, mais comme Jésus le formule ensuite, au verset 26 et 27, l'échelle de grandeur, de la grandeur, est tout autre dans le royaume des cieux. Au vu de ces trois éléments, il me paraît indubitable que les disciples avaient une certaine aspiration à la grandeur. Jésus leur a donc dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut leur faire comprendre certaines choses et il leur pose une question au verset 22 pour les amener plus loin. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Dit-il. Et de façon assez surprenante, ils répondent à Jésus qu'ils le peuvent. Mais là n'est peut-être pas le plus surprenant. Le plus étonnant, c'est sans doute ce que Jésus dit ensuite quand il affirme au verset 23 qu'ils boiront effectivement sa coupe. Comment comprendre cette affirmation de Jésus ? L'explication la plus satisfaisante à mes yeux est de comprendre ici la réalité du partage des souffrances de Jésus, de certaines souffrances de Jésus par ses disciples. L'apôtre Pierre en parle dans sa première épître, au chapitre 4, verset 13, quand il dit, en parlant de la persécution qui sévissait alors parmi eux, « Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Il y a une réalité de souffrance, de chemin difficile à la suite du Christ, et qui est d'ailleurs confirmée par la description que Jésus en fait à plusieurs reprises dans les évangiles. Ainsi, nous lisons par exemple au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera ou la trouvera. » Suivre le Christ peut induire des souffrances, un chemin difficile et parfois même la mort, même si perdre la vie dans le texte ici ne doit pas être compris exclusivement, uniquement comme une réalité physique. Dans ce sens-là, les disciples vont boire la coupe de Jésus. Ils vont souffrir avec lui, ils vont souffrir pour lui. Et c'est la réalité depuis, à des degrés divers, pour tous les disciples. Pour ne mentionner que Jacques et Jean, nous savons que Jacques sera le premier martyr de l'Église dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 2. En tout cas, du premier martyr parmi les apôtres, hein. Il y a eu Étienne avant. Et l'apôtre Jean, quant à lui, alors on n'a que la tradition, mais on sait qu'il sera exilé sur l'île de Patmos, ça c'est clair dans la Bible, mais la tradition dit qu'il est mort ébouillanté, jeté vivant dans un chaudron d'huile bouillante. On en saura plus quand on arrivera là-haut. Notons bien que si les disciples partagent certaines souffrances avec leur maître, il y a bien évidemment des souffrances de Jésus qui sont uniques, qui sont propres à Jésus, qui sont propres à son œuvre. Et c'est en particulier vrai de toutes les souffrances expiatoires de son œuvre de salut à la croix. C'est bien évidemment une différence qu'il faut maintenir. Elle est de taille et quand nous partageons des souffrances avec le Christ, ce ne sont bien évidemment pas de ces souffrances-là dont nous parlons. Jésus dit donc que ses disciples boiront effectivement de sa coupe. Et il précise ensuite que pour ce qui est de l'attribution de ces fameuses places d'honneur à droite et à gauche dans son royaume, cela ne dépend pas de lui, mais du Père qui fera ce qu'il veut. Mais là ne s'arrête pas ce que Jésus dit à ses disciples suite à la demande de Jacques, de Jean et de leur mère. Jésus va saisir cette occasion, comme il le fait souvent, pour enseigner ses disciples. Et il commence d'abord par les rassembler, comme un berger qui rassemble son troupeau qui s'est dispersé. Ce sont les versets 24 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus énonce ici en quelques phrases des vérités fondamentales concernant son royaume. un royaume qui ne fonctionne pas comme les royaumes de ce monde, qui ne fonctionne pas sur les principes de puissance, de grandeur et de domination de notre monde. En essence, Jésus leur dit que la recherche de la prééminence, la recherche de l'honneur, la recherche de l'autorité, la recherche de la domination sont des caractéristiques de ce monde et ne doivent pas exister dans son royaume. Ainsi, l'importance de soi, le désir d'être vu, le désir d'être respecté par les autres, l'ambition de faire son territoire, de laisser son empreinte ou d'imposer sa volonté aux autres, ne sont pas des valeurs du royaume de Dieu, ce sont les valeurs de notre monde, de la foire d'empoigne à laquelle ressemble notre monde, du panier de crabes auquel ressemble notre monde. Et ces valeurs n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Ainsi, Jésus va redéfinir complètement la question de la grandeur. C'est quoi être grand dans le royaume de Dieu ? C'est quoi être grand aux yeux de Dieu ? La réponse à ces questions pourrait peut-être nous surprendre. En effet, le grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert, c'est le serviteur, c'est celui qui s'abaisse pour servir les autres. Oui, la grandeur aux yeux de Dieu, c'est la grandeur du service, c'est la grandeur du don de soi. Et ça, mes amis, c'est du renversement total de valeur par rapport à notre monde, par rapport à ce que nous côtoyons jour après jour. C'est un changement complet de paradigme. Il n'en sera pas de même parmi vous, dit Jésus. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Avant de terminer avec l'exemple de Jésus, j'aimerais faire deux remarques. La première concerne l'ambition. Les paroles de Jésus redéfinissant la grandeur dans son royaume pourraient nous amener à considérer qu'aucune forme d'ambition n'est bonne dans la vie chrétienne, n'est légitime dans le royaume de Dieu. Alors bien évidemment, c'est vrai de l'ambition de grandeur. Mais il y a des ambitions qui ont toute leur place dans la vie chrétienne. L'ambition, par exemple, de la gloire de Dieu. L'ambition du salut du plus grand nombre. L'ambition du bien de notre prochain. L'ambition de l'avancement du règne de Dieu. Alors attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des ambitions qui sont bonnes et légitimes dans l'Église, dans le royaume de Dieu, mais ce sont des ambitions qui ne sont pas personnelles, qui visent la gloire de Dieu. La deuxième remarque concerne une mauvaise compréhension possible des paroles de Jésus quand il dit au verset 26 « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » En effet, certains pourraient comprendre ici les paroles de Jésus comme validant le désir de grandeur des disciples en simplement le redirigeant vers le service. Et ainsi, certains pourraient prendre les paroles de Jésus ici comme une forme d'autorisation à la domination par le service. Je m'explique. Je pense ici à l'attitude qui consisterait à croire que parce que je m'engage pour le Seigneur, parce que je donne de mon temps, parce que je sers l'Église, parce que je sers mon prochain, parce que je fais des sacrifices pour le Seigneur, alors Cela légitimerait une certaine position, un certain statut, une certaine domination et certains privilèges. Bien évidemment, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre les paroles de Jésus. Ce que Jésus a voulu dire, c'est que la vraie grandeur dans son royaume, à la suite du Christ, c'est la grandeur de servir son prochain et jamais de le dominer. Ainsi, la grandeur dans le royaume de Dieu, la grandeur aux yeux de Dieu, c'est jamais un statut, c'est jamais une position, c'est jamais un titre de noblesse, c'est simplement le don de soi qui accomplit la volonté de Dieu. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner ces choses, mais il les a vécues. Il l'a exemplifié dans sa vie et il nous laisse son exemple parfait. Ce sera notre dernier point. Jésus, lui, le grand, le plus grand de tous, s'est fait petit, s'est fait serviteur. Lui, le maître, s'est abaissé, s'est humilié. Lui, le créateur de toutes choses, s'est fait homme. Quel paradoxe! Et c'est bien ce que Jésus dit à la fin de cet enseignement au verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est bien aussi ce que l'apôtre Paul écrit dans ses versets bien connus de sa lettre aux Philippiens. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, le grand, le maître, le créateur de toutes choses, comme nous venons de le dire, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à profiter du fait qu'il était Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. En devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oui, Jésus s'est volontairement abaissé pour nous servir. Il aurait pu faire valoir ses droits. Il était Dieu, mais il a choisi de se vider de lui-même, de se dépouiller de sa gloire pour devenir homme, pour nous servir et pour mourir à notre place sur la croix. Lui, le Fils de Dieu de toute éternité, lui le Maître, lui le Seigneur, lui le Roi des rois, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et qu'a fait le Père, qu'a fait son Père devant l'abaissement de son Fils? Abaissement incompris, méprisé, moqué par les hommes. Qu'a fait le Père face à l'abaissement de son Fils? À la suite du texte des Philippiens, l'apôtre Paul continue et il répond à cette question. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chers amis, c'est le Christ qui est notre modèle parfait. C'est lui que nous devons imiter. Et ce sont les dispositions qui étaient en lui. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Christ. Ce sont les dispositions d'abaissement, de service, de don de soi qui étaient en lui, que nous devons rechercher et qui doivent se trouver en nous. Par son enseignement, certes, mais Par sa vie, surtout, Jésus nous apprend ce qu'est la vraie grandeur. La grandeur aux yeux de Dieu qui se trouve dans l'humilité du service, qui se trouve dans le don de soi. Oui, la vraie grandeur se trouve dans l'imitation du Christ. Elle se trouve dans l'imitation de son service. Ainsi, dans l'Église, celui qui est grand, grand aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui est sur l'estrade, là, le dimanche matin. Ce n'est pas forcément celui qui prie tous les dimanches à voix haute une très belle prière. Ce n'est pas forcément celui qui a un ministère d'enseignement. Ce n'est pas celle ou celui qui fait les gros titres dans les magazines chrétiens. Pas forcément. Non, celui qui est grand aux yeux de Dieu, c'est tout simplement celui qui marche dans les pas de Jésus. Celui qui marche à la suite de son Sauveur et de son Seigneur en servant son prochain. Et comme Dieu le Père l'a fait pour Jésus, son Fils, il élèvera un jour, il honorera celles et ceux qui se sont abaissés à marcher dans les pas du Christ, à suivre le Christ. Chers amis, tout cela est paradoxal. C'est le paradoxe de la grandeur de Dieu, de la grandeur selon Dieu. C'est complètement à contre-courant de tout ce que nous pouvons entendre autour de nous, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Mais c'est la volonté de notre Père Céleste. C'est celle aussi de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissent les dispositions qui étaient en lui être en chacun de nous. Amen.